Eh bien, nous allons prendre la parole pour nous placer devant le Seigneur et recevoir une instruction très simple qui est celle des disciples. La foi des disciples, être un disciple de Jésus, du Seigneur. Disciple, on peut dire aussi élève. Il y a une notion, bien sûr, d'engagement dans le disciple, de discipline, hein, d'accord, qui recouvre plusieurs aspects, parce que c'est bien ce que le Seigneur nous a demandé dans son évangile. À la fin, il a envoyé les apôtres, ses disciples dans le monde entier, et il leur a donné d'abord cette promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais entre deux, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, nous avons le programme des premiers disciples et de ceux qu'ils amèneront à la connaissance du Seigneur, qu'ils amèneront à la foi. Le disciple est bien sûr premièrement un croyant, mais il n'est pas seulement un croyant. Il devient quelqu'un qui suit un maître et qui lui obéit et qui l'imite. Voilà ce qui est contenu dans ce terme de disciple. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ par le baptême en son nom. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, et par l'enseignement venu de lui. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les apôtres ne vont jamais enseigner leur propre enseignement. Ils vont enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit. Et ils vont faire des disciples de Jésus, des disciples du Seigneur. La foi chrétienne ne connaît pas de disciples autres que ceux de Jésus-Christ. Anciennement, chaque nouveau maître avait ses propres disciples. Dans le monde grec, il y avait les philosophes avec leurs disciples. Et puis Jean-Baptiste lui-même, qui a précédé Jésus, avait ses disciples. Puis Jésus-Christ est venu et il a eu également ses disciples. D'ailleurs, des disciples de Jean-Baptiste sont devenus disciples de Jésus-Christ. Et à partir de Jésus, il n'y a plus eu de nouveau maître auquel se rattacher, car un disciple s'attache à un maître. L'apôtre Paul a dû combattre à ce sujet, lui qui était chargé d'instruire les païens. Les Corinthiens, ainsi que d'autres convertis du paganisme, aurait eu tendance à former des chapelles calquées sur les écoles philosophiques grecques en se réclamant chacun d'un maître particulier. Il aborde ce sujet immédiatement dans sa première épître aux Corinthiens lorsqu'il s'aperçoit que les Corinthiens commencent à dire « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos ». Et moi de Céphas, et moi même de Christ. Alors on peut dire, ben c'est très bien d'être de Christ, mais si c'est Christ en comparaison à Paul, à Pierre, à Céphas, ben ça rabaisse très nettement Christ. Alors, le christianisme aurait été immédiatement dénaturé avec des disciples de Paul, de Pierre, de Jacques, Et d'ailleurs, il a fallu, à un moment donné, une conférence à Jérusalem, chapitre 15, des actes, parce qu'effectivement, certains apôtres, par leur enseignement, avaient une influence qui aurait pu orienter le message dans un sens qui n'était pas complet, dans une dimension qui n'était pas complète. Et il a fallu que les apôtres, tous ensemble, avec les anciens, se réunissent à Jérusalem et s'accordent sur la doctrine de la foi qui devait être transmise aux païens. Alors donc, le témoignage aurait été bien compromis si dès le départ il y avait eu des disciples de Jacques, des disciples de Pierre, des disciples de Paul ou des disciples d'Apollos. Par la tendance naturelle des hommes à épouser un parti, à se ranger sous une certaine bannière. Mais les apôtres ont donc évité l'écueil. La suite de l'histoire n'est pas si simple, mais au moins est-il toujours possible de laisser le phare de leur témoignage nous éclairer pour rester dans la foi des disciples de Jésus-Christ, tel que lui les a voulus au commencement, tel que ceux qui étaient avec lui de son temps le suivaient. Il n'y a pas d'autre disciple que ceux de Jésus-Christ, en imitation des premiers qui étaient avec lui. Nous sommes donc convertis au Seigneur. La conversion, nous ne nous convertissons pas au christianisme, nous nous convertissons au Seigneur, nous nous convertissons à Dieu. Nous entrons dans une relation personnelle avec le Seigneur qui nous a sauvés. Nous sommes convertis au Seigneur et nous sommes ses disciples, à l'instar de ceux qui étaient auprès de lui. Et qu'attend-on d'un disciple en général et un disciple de Christ en particulier? Eh bien, de tout temps, premièrement, le disciple, c'est celui qui se met à l'écoute de son maître, qui reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'enseigner, qui possède les clés de la vérité et qui se met à son écoute. Dans le prophète Ésaïe, déjà, il y a cette parole « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » C'est très intéressant ce passage parce qu'il est question d'un disciple qui a une langue exercée qui peut soutenir par la parole. Mais pour pouvoir soutenir par la parole les autres, eh bien, il doit d'abord lui-même se mettre à l'écoute. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc, le disciple est effectivement, premièrement, un élève qui écoute l'enseignement de son maître. Nous écoutons ce que Jésus a à nous enseigner. Et cette attitude volontaire d'être à l'écoute permet au maître de donner un enseignement, de nous donner l'enseignement général, mais aussi d'approfondir pour chacun, envers chacun, l'enseignement. Dans Marc, chapitre 4, verset 34, nous lisons que le Seigneur enseignait les foules par des paraboles. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. les disciples, et c'est dit d'une autre façon dans d'autres évangiles, les disciples avaient ce privilège de recevoir un enseignement particulier de la part de Jésus. Ils étaient toujours d'ailleurs à lui poser des questions et il répondait à leurs questions. Si vous êtes disciple de Jésus, vous l'écoutez attentivement et il se plaît à mieux vous instruire. D'ailleurs, il disait aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Demeurez dans la parole de Jésus, l'écouter, l'entendre nous enseigner au sujet de la vérité éternelle, au sujet de la loi de Dieu, au sujet du comportement à avoir dans notre vie, au sujet de ce qui va se passer dans le monde, toutes ces choses. Jésus veut répondre à nos questions si nous nous laissons instruire par sa parole. Pour écouter, il faut suivre le maître. Jésus ne restait pas en place, il bougeait. Il n'avait pas simplement son école où il s'asseyait et il commençait à enseigner. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il allait à la rencontre. Et son enseignement n'était pas pure philosophie, bien sûr. Il concernait la vie. Jésus se confrontait et il nous confronte aux mœurs et aux pratiques religieuses du monde, etc. Et il va pour cela à la rencontre de ceux qui doivent être instruits et sauvés. Par conséquent, le disciple suit le maître là où il va. Il le voit vivre et agir, parler et répondre, aller à la rencontre des ignorants, etc. Et petit à petit, il entre, il adhère au service que rend son maître. Il s'imprègne du service. Il apprend lui-même à service et à servir et à être confronté aux véritables situations. En théorie, on peut tout faire. En pratique, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est dans la vie que le Seigneur veut nous trouver et nous enseigner. Plusieurs passages, bien sûr, disent que ceux qui ont reconnu Jésus comme le Seigneur, eh bien, l'ont suivi. D'ailleurs, les deux disciples de Jean, il est dit que lorsque Jean leur a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », eh bien, ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là en personne, mais suivre Jésus, eh bien, je pense tout simplement, ça correspond à rejoindre les disciples, ceux qui sont déjà devenus disciples de Jésus et qui ont appris à le suivre, eh bien, nous les rejoignons. Le disciple, celui qui croit en Jésus, rejoint toute la lignée des autres disciples, il se joint aux autres disciples, et ainsi il continue à suivre lui-même Jésus dans l'action, puisque les disciples ne restent pas inactifs, ils témoignent en ce monde, ils agissent au nom du Seigneur, et donc en se joignant aux disciples qui nous ont précédés, eh bien, nous apprenons nous aussi à suivre Jésus et quelle est son action et son service. Dans l'action, la foi est fortifiée, mais elle est aussi éprouvée. Et il arrive qu'elle révèle qu'au fond, nous n'avons pas compris l'enseignement du Maître et que nous ne sommes pas prêts à le suivre tel qu'il le veut. Dans Jean 6, 66, ça c'est facile à retenir comme référence, 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été confrontés à tout l'enseignement de Jésus au sujet du pain vivant descendu du ciel. Et Jésus a pu dire, suite à cet échange tous ceux qui l'entouraient là, qu'il savait que parmi eux, quelques-uns ne croyaient pas. Et ceux qui ne croyaient pas vraiment, ils étaient séduits et impressionnés par le miracle. Jésus avait multiplié les pains. Et là, il aurait bien suivi sur cette base. Mais quand Jésus a commencé à expliquer ce que cela signifiait concernant le don de sa vie, alors ils n'ont pas adhéré. Et ils se sont retirés. Si vous n'entrez pas dans le témoignage public rendu à Jésus-Christ, dans le partage de la parole, dans la mise en pratique des enseignements, si vous n'êtes pas là où l'on prêche et où l'on agit en son nom, vous ne pouvez pas progresser dans la compréhension de la foi et même, je dirais, vous ne pouvez même pas être certain que votre foi est authentique. Vous ne savez que votre foi est authentique que lorsqu'elle a été éprouvée, lorsque vous avez été placé devant des situations incompréhensibles et que le Seigneur a pu vous révéler quelle était la raison de toutes ces choses. Engageons-nous concrètement dans le témoignage et là, nous allons pouvoir savoir si nous sommes de véritables disciples du Seigneur. Jésus, bien sûr, a donné des impératifs pour le suivre et être ses disciples. En fait, il a donné, je pense, deux impératifs pour confirmer la qualité de disciple. Le premier, c'est le renoncement. Le second, c'est l'acceptation. Au sujet du renoncement, Luc 14, 33, vous connaissez ces passages. Il faut les redire, hein. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Qui fait suite à « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Un renoncement, une rupture initiale fondamentale qui nous attache au maître avec toutes les relations aux biens matériels et même aux affections humaines qui passent en retrait par rapport à l'engagement envers Christ. Luc 18, 22, si tu veux me suivre, dit Jésus, hein, à l'homme riche, bien sûr. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Beaucoup de messages qui peuvent être apportés sur la réalité de cette parole. Mais c'est quand même dès le départ, le Seigneur nous demande un renoncement, et en particulier notre propre vie, hein, et même sa propre vie, dit-il, le renoncement total pour pouvoir le suivre. Et puis, l'acceptation. Dans Matthieu 10, versets 24 à 25, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? En résumé, en s'engageant, le disciple imite son maître qui n'avait rien à lui, qui avait renoncé à sa propre vie, bien sûr. Et son engagement, d'ailleurs, se double d'un service. Parce qu'ici, Jésus dit, disciple traité comme son maître, serviteur comme son seigneur. Il associe, en fait, il y a une assimilation entre disciple et serviteur, disciple et esclave de la maison. D'ailleurs, en Jean 12, l'ordre est inversé, l'ordre de priorité. 12, verset 23-26, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc on sert aussi le Seigneur en tant que serviteur dans sa maison. Et c'est là qu'on peut devenir un vrai disciple. Donc on s'engage, on imite le maître et on le sert. Et il arrivera inévitablement que le disciple supportera la même incompréhension et le même rejet que le maître. C'est incontournable. Si Jésus nous demande le sacrifice de nos vies, ce n'est pas pour qu'à terme nous triomphions dans ce monde. D'accord, nous avons renoncé à tout. D'accord, nous avons tout quitté. Nous ne faisons plus rien de ce que nous voulons personnellement. Mais au moins, nous avons la reconnaissance, nous avons la gloire d'être des gens bien reconnus comme à part, etc. Donc nous tirons une gloire, on peut dire, de cet engagement, de ce sacrifice de nos vies. Eh bien, Jésus nous déçoit en quelque sorte en nous disant, quand vous aurez fait tout ça, quand vous aurez eu cet engagement parfait et total avec moi, vous ne serez toujours pas reconnus comme des gens estimables et même recommandable dans ce monde. Vous porterez l'opprobre, le même opprobre en fait que Christ a porté dans ce monde, il s'attachera à vous également. Et ce n'est pas donc sur cette terre que vous pourrez espérer avoir en quelque sorte la récompense de votre, ou la gloire en quelque sorte, de votre engagement total envers Dieu. Alors, après l'avoir suivi, le disciple peut être envoyé. Nous ne sommes pas seulement appelés à suivre Jésus, mais lorsqu'il nous a donné une maturité dans la foi, à ce moment-là, il nous équipe pour nous envoyer là où lui... Alors, il y a un passage où il dit là où il devait lui-même aller. Mais il y a ces deux passages dans Luc et dans Matthieu d'ailleurs, mais Luc est plus complet. Au chapitre 10, 9, pardon. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, c'est de là que vous partiez, tirez, etc. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Voilà le Seigneur qui assemble les douze, pour les envoyer. Mais il ne le fait pas sans les avoir équipés pour leur service. Et puis au chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voilà, c'est là. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, une fois formés par le maître et restant toujours à son écoute et le suivant toujours dans nos cœurs, nous pouvons être envoyés et aller apporter aux autres ce que nous avons reçu de lui pour que les autres se préparent à ce grand jour de sa gloire. Alors il y a un aspect, bien sûr, il les envoya deux à deux, hein, pas individuellement déjà. C'est quelque chose que nous devons nous-mêmes pratiquer, respecter, aller travailler tout seul, aller témoigner tout seul. Ce n'est pas forcément la solution. Il faut s'assembler et être deux minimum. Le principe que le Seigneur Jésus a donné. On se fortifie, on se corrige, etc. lorsque l'on est deux. Donc les disciples, ils n'étaient pas seulement deux à deux, mais ils étaient toute une équipe avec Jésus, hein, les douze, et puis là aussi les 70. Et il y a une caractéristique que Jésus souligne, chapitre 13 de l'Évangile, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On peut se lancer dans de grands projets pour Christ si nous ne restons pas dans l'amour mutuel. Tout capotera, tout sera au bout du compte effacé, anéanti. Les disciples du Seigneur s'aiment. Un disciple solitaire, incapable d'entrer en relation avec d'autres disciples, c'est un vrai problème. Caractéristique qui fait que l'on reconnaît que nous sommes disciples de Jésus, c'est l'amour partagé. Pas un amour théorique, mais un amour qui montre que voilà, nous vivons et faisons les choses ensemble, nous nous apprécions mutuellement, nous nous recommandons mutuellement. Et là, le Seigneur peut poursuivre son enseignement et son édification. Alors, en nous donnant ces enseignements, tous ces impératifs, le Seigneur nous présente-t-il un objectif inatteignable? Premièrement, il nous donne l'exemple lui-même, il nous précède, il nous équipe, donc nous ne pouvons jamais dire que ce qu'il nous demande est impossible. Il nous donne l'ambition qu'il a pour nous, en Luc 6, 40. le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est l'ambition de Jésus pour nous. Il ne veut pas que nous restions... En même temps, ça montre que tout disciple accompli, donc il y a une formation, il y a un entraînement, il y a des progrès à faire. Ce n'est pas immédiatement que l'on devient un parfait disciple du Seigneur. Mais si nous sommes décidés et que nous nous engageons vraiment à son écoute et à agir en son nom, nous deviendrons comme lui. Tout disciple accompli sera comme son maître. Vous ne vous devez pas vous départir de cette pensée. Ce n'est pas du tout impossible. Sinon, le Seigneur aurait parlé en vain. Ce n'est pas du tout impossible. Le Seigneur veut nous équiper, veut nous instruire. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde pour que nous soyons des disciples accomplis. C'est un beau programme et je vous invite vraiment à entrer pleinement dans cette foi. La foi du disciple ne se laisse pas arrêter, ne se laisse pas distraire par toutes sortes de considérations. Elle maintient que son maître s'est donné pour le former et jusqu'au bout devenir à la stature parfaite de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne également. Parvenir à la stature parfaite de Christ. Amen.